Quelquefois, on entend quelqu'un dire qu'il aurait voulu être présent quand tel ou tel événement a eu lieu. Eh bien, les disciples de Jésus ont eu l'immense privilège d'assister à tous ces enseignements. Oui, mais encore fallait-il qu'ils les comprennent. Je continue à lire dans le chapitre 7 de l'Évangile selon Marc. Lorsque Jésus, laissant la foule, fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent de leur expliquer le sens de cette image. Il leur répondit, « Ainsi, vous aussi, vous ne comprenez pas ? Ne saisissez-vous pas ce que je veux dire ? De tout ce qui vient du dehors et pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur. Mais cela, en effet, ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre, et évacué par les voies naturelles. Jésus déclarait par là même que tous les aliments sont purs. Être disciple du Seigneur n'est pas de tout repos. Ici encore, ils se font tirer les oreilles parce qu'ils sont lents à comprendre. Le ventre n'est pas un agent moral. C'est un peu comme un lion mangeur d'hommes. Comme il ne possède pas le sens moral, on ne peut pas lui reprocher de dévorer un indigène. En disant, Jésus déclarait par là que tous les aliments sont purs. Marc fait un commentaire. En affirmant que la faute vient de l'intérieur, Jésus donne un coup de patte au rabbin qui enseignait le contraire. Il dit aussi que les lois alimentaires de l'Ancien Testament, qui avaient pour but pédagogique d'enseigner le respect de la distinction entre le pur et l'impur, sont dorénavant suspendues. Je continue. Et Jésus ajouta, « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises qui mènent aux adultères, aux activités sexuelles illicites, aux meurtres, aux vols, aux désirs insatiables pour ce qui appartient à quelqu'un d'autre, aux méchancetés, à la tromperie, aux vices non dissimulés, l'avarice envieuse et la jalousie à l'égard des biens d'autrui, la parole injurieuse ou diffamante contre Dieu et les hommes, l'orgueil avec mépris d'autrui et la folie de l'insensibilité morale et spirituelle. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. » La tournure grammaticale explique le processus par lequel l'homme se souille. Ce sont les mauvaises pensées que le cœur génère qui s'unissent à la volonté pour produire de mauvaises paroles et de mauvaises actions. Le catalogue de fautes que Jésus présente comprend 12 éléments, 6 actions individuelles répréhensibles, suivies de 6 mauvais comportements. Jésus déplace le centre d'attention qui était sur les rites externes et souligne le besoin de chaque être humain de purifier son cœur. Le psalmiste écrit « Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, purifie-moi avec un rameau d'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc comme la neige. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Je continue le texte. Jésus partit de là et se rendit dans la région de Tyr. Il entra dans une maison. Il ne voulait pas qu'on sache qu'il était là, mais il ne put cacher sa présence. En effet, à peine était-il arrivé qu'une femme qui avait entendu parler de lui et dont la fillette était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint se jeter à ses pieds. C'était une femme païenne d'origine syro-phénicienne. Elle le supplia de chasser le démon qui tourmentait sa fille. Jésus se rend dans une ville portuaire de la Méditerranée, en Phénicie, le Liban aujourd'hui, dans le but de former ses disciples à l'écart des foules. Mais sa réputation le précède. En se jetant aux pieds du Seigneur et en implorant son aide, la femme adopte l'attitude habituelle du mendiant. Elle a suffisamment entendu parler de Jésus pour savoir qu'il peut délivrer sa fille d'œil de monde. Malheureusement, elle a deux grandes barrières à franchir. Premièrement, c'est une femme. Elle parle à un homme. À cette époque, en public, un rabbin ne parlait à aucune femme, pas même à celle de sa famille. Deuxièmement, elle est cananéenne. Elle fait une demande à un juif. Or, il n'y avait pas de contact entre ces deux groupes. Cependant, Jésus est impressionné par la confiance que cette femme païenne place en lui et décide de mettre sa foi à l'épreuve. Je continue. Jésus lui dit, « Laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison, car il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » En d'autres mots, Jésus dit, « Je suis venu pour les Juifs qui sont mon troupeau, et comme tu n'en fais pas partie, je n'ai pas à m'intéresser à toi. » Le Seigneur est choquant, mais pas insultant. Les Juifs appelaient les païens les chiens, mais ici, il s'agit de chiots et pas de charognards. Je continue. « Sans doute, Seigneur, reprit-elle, mais les petits chiens qui sont sous la table mangent les miettes que laissent tomber les enfants. » En d'autres mots, elle dit, « C'est vrai, mais je crois que tu as de la compassion même pour les non-juifs qui souffrent et que tu peux guérir ma fille. Je veux une miette pour elle. » Je continue. Et Jésus de répondre, « À cause de cette parole, va, retourne chez toi. Le démon vient de sortir de ta fille. » Elle rentra chez elle et trouva son enfant couché sur le lit. Le démon était parti. Selon Matthieu, Jésus a aussi dit, « Ô femme, ta foi est grande. » En effet, elle a brillamment réussi l'épreuve et reçoit la médaille olympique de la foi. C'est le seul miracle que Jésus accomplit à distance sans donner d'ordre. Cette femme cananéenne révèle quatre vertus. L'humilité, car elle accepte que les Juifs aient la priorité sur les païens. La foi, car elle croit que quelques miettes suffisent pour guérir sa fille. La sagesse, car elle ne se laisse pas dévier de son objectif. Et enfin, la persévérance, car rien ne peut arrêter sa détermination. L'amour qu'elle porte en elle pour son enfant lui fait franchir tous les obstacles. Elle veut la guérison de sa fille. Elle l'obtient. Je continue le texte. Jésus quitta la région de Tyr, passa par Sidon et regagna le lac de Galilée en traversant le territoire des dix villes. On lui amena un sourd qui avait du mal à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Jésus l'amena seul avec lui, loin de la foule. Après avoir posé ses doigts sur les oreilles du malade, il les humecta de salive et lui toucha la langue. Alors il leva les yeux au ciel, poussa un soupir et dit « Ephrata », ce qui signifie « Ouvre-toi ». Ce nouveau miracle n'est raconté que par Marc. Le Seigneur explique à cet homme ce qu'il va faire en utilisant un langage de signes et de symboles qui sont parfaitement adaptés à ses besoins et qui vont l'amener à faire preuve de foi. L'homme a facilement pu lire le mot « Ephrata » sur les lèvres de Jésus. Je finis le chapitre 7. Aussitôt les oreilles de cet homme s'ouvrirent, sa langue se délia, et il se mit à parler correctement. Jésus commanda à ceux qui étaient là de n'en dire rien à personne, mais plus ils les défendaient, plus ils en parlaient. Remplis d'étonnement, les foules s'écriaient, « Tout ce qu'il fait est magnifique. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Jésus voulait continuer son ministère dans la Décapole, la région des dix villes, sans passer pour un faiseur de miracles. D'où son désir de ne pas ébruiter cette guérison. Peine perdue, évidemment, car la foule est littéralement en extase. C'est ainsi que s'achève ce chapitre 7, qui a commencé par une attaque des pharisiens contre Jésus au sujet de l'impureté rituelle. Pour le Seigneur, ces pratiques pointilleuses ne rendent pas compte de l'intention divine et sont au contraire des manifestations d'hypocrisie et des occasions d'enfreindre la loi. En déclarant que le cœur est la véritable source de l'impureté, Jésus se présente comme l'interprète authentique de la loi, comme celui en qui elle trouve son accomplissement, comme celui qui invite à un changement de vie afin d'entrer dans le royaume. Nous arrivons au chapitre 8, où les événements se succèdent toujours aussi rapidement. Le début est comme un remake de plusieurs incidents et d'enseignements qui ont déjà eu cours. Et pourtant, les disciples sont encore lents à saisir la véritable identité de Jésus. Ça me console, parce que moi aussi, je suis dur du chapeau. Je commence à lire. En ces jours-là, une grande foule s'était de nouveau rassemblée autour de Jésus. Elle n'avait rien à manger. Jésus appela donc ses disciples et leur dit « J'ai pitié de cette foule. Cela fait 3 jours que ces gens sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces vont leur manquer en chemin, car certains d'entre eux sont venus de loin. » La foule nombreuse suit Jésus depuis 3 jours pour l'écouter. Tous les sacs sont vides. Tous ont épuisé leurs maigres provisions et il n'y a ni restaurant ni magasin d'alimentation dans les parages. En fait, la situation est sérieuse, car retourner chez soi en marchant pendant 1 ou 2 jours sans manger n'est pas une petite affaire et pourra même se révéler dangereux pour certains qui sont âgés ou de santé défaillante. S'ils n'ont pas été guéris ainsi que pour les femmes enceintes et les enfants. Jésus est ému de compassion pour ces gens et attire l'attention des disciples sur leurs besoins. Il décide donc de nourrir ceux qui s'étaient privés de nourriture pour venir l'écouter. Tout est en place pour la seconde multiplication des pains. Je continue. Ses disciples lui répondirent, « Où pourrait-on trouver dans cet endroit désert assez de pain pour les nourrir ?»« Combien avez-vous de pain ?» leur demanda-t-il. « 7 » répondirent-ils. Il semble bien que les disciples ont totalement oublié la première multiplication des pains. Ils ne sont pas lents à comprendre, mais bouchés à l'émerie. La question de Jésus montre clairement son intention d'utiliser les ressources dont il dispose. Je continue. Alors il invita tout le monde à s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains, et après avoir remercié Dieu, il les partagea et en continuait à les donner à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ce qu'ils firent, ils avaient aussi quelques petits poissons. Jésus prononça la prière de bénédiction pour les poissons et dit à ses disciples de les distribuer également. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa 7 corbeilles des morceaux qui restaient. Il y avait là environ 4 000 hommes. Ensuite Jésus les congédia. Il faut bien voir que Jésus ne crée pas un repas composé de bistecs, frites, salades, mais de pain et de poisson, ce qu'il a déjà sous la main en petite quantité. Cet incident se situe plus tard dans l'année que la première multiplication des pains, probablement en été, parce que la foule s'assoit littéralement sur la terre, ce qui signifie que l'herbe a déjà été brûlée par le soleil d'Orient. Le miracle se produit à peu près de la même façon que la première fois pour les 5 000 hommes. Par contre, les corbeilles sont différentes, car en corde ou en natte est suffisamment grande pour transporter un homme. Et les 7 corbeilles, des morceaux qui restent, représentent davantage de nourriture que les 12 paniers lors du premier miracle. La plus grande différence entre les 2 multiplications réside dans le moment où Jésus accomplit le prodige. La première fois, c'était à la fin du premier jour d'enseignement, alors qu'il aurait très bien pu renvoyer la foule sans que les gens ne faiblissent en route. Mais comme il avait encore beaucoup à leur dire, il les a nourris avant de leur donner pour dessert le fameux discours sur le pain de vie, qui nous est relaté dans l'Évangile selon Jean. La seconde multiplication des pains est faite après 3 jours d'enseignement. Ici, Jésus a fini son exposé, mais l'état de fatigue de la foule l'oblige en quelque sorte à faire ce miracle. Je continue le texte. Aussitôt après, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmonuta. Des pharisiens arrivèrent et engagèrent une discussion avec lui. Ils lui demandaient de leur faire voir un signe miraculeux qui viendrait du ciel. Il lui tendait un piège. Jusqu'à là, Jésus était dans la région des 10 villes, un district à majorité païenne. Maintenant, il retourne sur la rive ouest du lac de Galilée, en territoire juif, où l'attendent les pharisiens de pied ferme pour le contrer. Ce qu'ils disent vouloir est la preuve incontestable que Jésus et son ministère sont sanctionnés par Dieu. En fait-il ruse, car ils sont persuadés du contraire. Je continue. Jésus poussa un profond soupir et dit, « Pourquoi les gens de notre temps réclament-ils un signe miraculeux? Vraiment, je vous l'assure, il ne leur en sera accordé aucun. » De guerre lasse, Jésus pose une question qui exprime sa peine devant l'incrédulité obstinée des pharisiens. Tout au long de son histoire, la nation d'Israël, représentée par les chefs religieux et politiques, est systématiquement rejetée les rapports de grâce que Dieu désirait entretenir avec son peuple. Je cite 2 passages de l'Ancien Testament, l'un du psalmiste et l'autre de Moïse, où tous deux se plaignent de la conduite de la nation juive vis-à-vis de leur Dieu. Dans leur cœur, ils ont mis Dieu au défi en réclamant à manger à leur goût. Mais vous, à son égard, vous êtes corrompus, vous n'êtes plus ses fils à cause de vos tares, gens perverses, dépravés. Comment peut-on ainsi se conduire envers lui, nation folle, insensée? N'est-il pas votre Père et votre Créateur, celui qui vous a fait, qui vous a établi? Jésus refuse catégoriquement de répondre à l'attente hypocrite des pharisiens et de les distraire. Cependant, selon Matthieu, le Seigneur leur a répondu en se comparant au prophète Jonas. Marc passe ce détail sous silence, car les païens, à qui sont l'Évangile est destiné, ne connaissent pas l'histoire très mouvementée de ce prophète hébreu. Je continue. Il, Jésus, les quitta, remonta dans la barque et partit pour l'autre rive. Les disciples avaient oublié d'apporter du pain. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Or Jésus leur recommanda, « Faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et de celui d'Hérode. » Par son départ abrupt, Jésus manifeste son indignation. Tout le monde s'embarque. Mais les disciples n'ont pas le temps de faire des provisions pour la route. La propriété du levain est qu'une petite quantité affecte et fait lever une grande quantité de pâtes. Dans l'Écriture, le levain est une métaphore courante pour désigner une influence invisible, mais pénétrante, généralement corruptrice, comme l'enseignement et l'attitude des pharisiens. La perversion croissante des pharisiens se trouve derrière leur demande d'un signe. Quant à Hérode, c'était un homme immonde, dans tout le sens du terme, mégalo et cruel, un sale type, un rapace superstitieux de la pire espèce qui n'avait ni foi ni loi. Je continue. Les disciples discutaient entre eux. Ils disent cela parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, sachant ce qu'il se passait leur dit. « Vous discutez parce que vous n'avez pas de pain. Pourquoi ? Ne comprenez-vous pas encore et ne saisissez-vous pas ? Votre intelligence est-elle aveuglée ? Avez-vous des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre ?» Les disciples ignorent complètement l'allusion de Jésus aux pharisiens et à Hérode. Ils entendent le mot « levain » et supposent qu'il leur parle de pain. Le Seigneur leur adresse les mêmes reproches qu'aux pharisiens et aux foules. Ces questions pénétrantes montrent que ces hommes ont un discernement spirituel quasiment nul. Il est difficile de comprendre que les disciples soient aveugles à ce point. C'est comme s'ils étaient dans un état comateux profond. Je continue le texte. « Ne vous souvenez-vous pas, quand j'ai partagé le pain entre les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ?»« 12, répondit-il. Et quand j'ai partagé les 7 pains entre les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ?»« 7, dirent-ils. Alors il ajouta, « Vous ne comprenez toujours pas ?» Les disciples n'ont toujours pas compris qui est Jésus et quelle est sa mission. Ils ne sont guère plus affectés par la présence du Seigneur au milieu d'eux que s'ils étaient en train de regarder un film d'action à la télé. Que ce soit les pharisiens ou les disciples, ils affligent Jésus car ils sont tous incrédules à leur façon, les premiers par malice et les seconds par une vision étroite de Dieu. Je continue le texte. Ils arrivèrent à Bethsaïda. On amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda « Est-ce que tu vois quelque chose ?» L'aveugle regarda et répondit « J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Jésus prend tout son temps avec cet homme. Il l'emmène hors de la ville, probablement pour établir une relation avec lui et éviter la publicité. C'est la troisième fois qu'une guérison ne se fera pas sous les yeux ébahis du public. Les deux premières furent la résurrection de la fille de 12 ans et le second qui avait du mal à parler. Ce miracle-ci est le seul qui va se faire en 2 étapes, l'application de la salive suivie d'une imposition des mains ne rend à cet homme qu'une vue partielle, car il distingue les gens comme une masse confuse en mouvement. Ce n'est pas que le pouvoir de Jésus soit en baisse, mais il utilise la cécité de cet homme pour illustrer l'état spirituel de ses disciples qu'il vient tout juste de réprimander. Il commence vaguement à distinguer qui est Jésus, afin, c'est pas trop tôt. Je continue le texte. Et Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en lui disant, « Ne rentre pas dans le village. » Cette vue, parfaitement rétablie, annonce qu'un jour les disciples verront clairement qui est Jésus et quel est le but de sa mission sur terre. Il est trop facile de leur jeter la pierre alors que, dans le domaine spirituel, nous souffrons tous d'un certain degré de cécité. Mais quelqu'un de la stature du grand apôtre Paul, qui a écrit près de la moitié du Nouveau Testament, reconnaissait qu'il distingue des mâles les réalités divines. Car, dit-il, nous ne voyons que d'une manière confuse, comme dans un miroir de métal poli. Je reconnais que je suis bien limité dans ma compréhension de la vie et de Dieu. Le sage connaît ses limites. Le philosophe Socrate, qui était connu pour son humilité, affirma un jour qu'il était le plus sage des Athéniens. Surpris, ses proches lui demandèrent ce qu'il voulait dire. Il répondit, « Il y a beaucoup d'Athéniens qui croient avoir la connaissance, tandis que moi, je sais que je ne sais pas. Et comme je sais que je ne sais pas, je suis le plus sage des Athéniens.